What'd you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I answered.
J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Nom de Dieu!
Arrête ton cinéma!
Bonjour, il est 18h sur RDIWA. Vous écoutez Arrête ton cinéma sur le 107.5 FM ou sur le www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du cinéma d'anticipation. Ouais, je peux faire aussi des burp comme ça au milieu. Avec Anna.
Oui, bonsoir.
Et Gwen.
Bonsoir.
Et puis une invitée surprise. Bonjour Clarisse.
Bonjour.
Voilà. Alors Gwen, par quoi tu commences ?
Alors moi, je vais commencer par un film qui est très, 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 très vieux, puisqu'il s'agit du Metropolis de Fritz Lang, en 1927. Donc,
Menaloine, tracta satun di mondo ciu en meta lacta liguna, ispeo bena krasma feru djunna, tero ferci hamas meta trutkit zidhandla, suk, suk, topo metim bakta seno voe, tito male ne paleila, seno... Kiko Hamas, Tatun, Trum, Trum, Sano Dope, Nela Dindo, Scala, Nela Dindo, Jela Boom.
Boom, oui, oui, ça je comprends, Boom.
Badaboom. Hein?
Big. Oui, Big Badaboom.
Big. Badabig Boom. Big. Boom.
Le film a lieu en 2027. Hein. Donc, Metropolis est une gigantesque cité verticale divisée en deux. Donc, évidemment, en haut, dans les jardins, il y a les nantis. Logique, n'est-ce pas? Et en bas, évidemment, c'est le domaine des machines et ainsi que des esclaves. Donc, le fils Freden, donc, qui est le jeune fils du maître de la cité, Jon Fredensen, très joli nom, ignore tout de la situation jusqu'à ce qu'il tombe, évidemment, amoureux d'une ouvrière qui s'appelle Maria. Maria. Et il va la suivre jusque... Voilà, il va la suivre en enfer, donc en bas, pour voir ce qu'il se passe. Et à côté de ça, il y a un professeur, Rod Wang, un savant, qui crée un robot à figure humaine. Et Fredensen, donc le maître de la cité, ordonne au professeur de donner à ce robot les traits de Maria pour qu'elle puisse, subjuguer les ouvriers qui sont en colère et ainsi les calmer. Mais Maria, programmée par Rod Wang, pousse les esclaves à tout détruire et la ville souterraine sera inondé. C'est un grand drame. Ça a été repris en 2001 par Katsuhiro Otomo, dans un film d'animation. Et là, par contre, c'est en fait un immense immeuble qui s'appelle le Ziggurat, qui ressemble un peu évidemment à la tour de Babel. Et c'est grâce à ce robot, Tima, qui par contre là est l'image de sa fille défunte, qui dirigera la ville. Et évidemment, elle tombe entre guillemets, amoureuse d'un jeune Kenichi qui est venu avec son oncle qui est un détective puisque un des professeurs a été tué. Et donc, il enquête sur ce fameux savant. Et donc, voilà. Et donc, il y a évidemment aussi le fils aîné du grand maître de la cité qui, lui, par contre, déteste ce robot puisqu'évidemment, il est l'image d'une sœur qui a disparu, qui est plus aimée que lui par son père.
Tu es allé loin dans la description de... l'intrigue.
Voilà.
Je voulais juste noter quelque chose, moi, c'est qu'on va quand même souvent parler d'adaptation de bouquins.
Mmh. Ah oui.
Que c'est souvent donc du domaine de la dystopie, donc la contre-utopie, donc un avenir sombre.
Plutôt. Oui.
Société imaginaire, vraiment organisée pour qu'il y ait toute une classe de gens malheureux, en fait. Hein,
c'est-à-dire qu'il y a souvent.
Avec la domination.
Ouais, ben c'est surtout qu'il y a pas mal aussi de catastrophes qui ont mené à ça. Il y a beaucoup de virus.
De virus ou carrément l'organisation de la société qui est faite pour.
Voilà, c'est voilà, ça. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il y a.
C'est pas forcément post-apocalyptique.
Il y en a pas mal quand même. Hein.
Mais
pas beaucoup, mais c'est vrai qu'après, il y a certains films où c'est même pas explicité. Là, on découvre la société telle quelle.
Ouais. Après, il faut pas oublier non plus que quand tu regardes l'évolution de la société entre. le début de la révolution industrielle jusqu'à maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui, au niveau sociologique, ont changé et pas vraiment bien, hein, dans l'individualisation. Et donc, en fait, c'est pousser le phénomène jusqu'au bout. Dans la dystopie, c'est un peu ça à chaque fois. Hein. C'est individualité, les riches encore plus riches, les pauvres encore plus pauvres, ouais. Les classes extrêmement marquées. Et je trouve pas ça idiot de montrer.
En tout cas, c'est logique. Penser que ça aille jusque-là.
Je pense que c'est même un parti pris d'écrivain. C'est-à-dire qu'on va se dire, bah, tiens, si on mettait la société comme ça, qu'est-ce qui se passerait ?
Alors, j'ai des conseils lecture à vous donner. Du coup, vite fait, je le fais maintenant. Oui. Parce que c'est une émission qui parle de cinéma. Mais je vais vous dire que.
Oui, mais les deux sont liés.
Il y a beaucoup de films dont on va parler aujourd'hui qui sont issus de bouquins. Et je vous conseille la plupart de ces bouquins. Donc. Entre autres, à part les films dont on va parler, il y a aussi donc Nous autres de 1920 de
Yevgeny
Zamyatin. Voilà, il y a aussi La Calocaïne de Karin Boy de 1940, Limbo de 52 de Bernard Wolff et La Grève en 57 de Ayn Rand. Voilà, quelques bouquins de dystopie en plus de ceux dont on va parler.
Le meilleur des mondes.
De Aldous Huxley, qui est bon, excellent. Oui, effectivement. Alors du coup, j'enchaîne sur Fahrenheit, moi, je pense.
Oui, voilà, c'est ça.
Allez, j'enchaîne sur Fahrenheit. Fahrenheit 451, donc un film de François Truffaut, son seul film tourné en anglais. Donc la bande-annonce est rigolote parce que c'est François Truffaut, voilà, qui date de 66 et qui est d'après un roman de Ray Bradbury de 53. Donc là, on est dans un monde où la connaissance est considérée comme un danger. Donc forcément, la lecture, les livres sont interdits et détruits par le feu. Donc le Fahrenheit 451, c'est la température à laquelle les livres brûlent. Et donc les pompiers maintenant n'éteignent plus le feu. Les pompiers sont pyromanes et sont chargés de repérer les bouquins et de les brûler. Donc Guy Montag, qui est marié à une jeune femme du nom de Linda, est un des leurs, est un pompier, mais plutôt atypique finalement. Enfin, en tout cas, il est dans une vie vraiment classique jusqu'à ce qu'il rencontre Clarisse, n'est-ce pas ? Pas ma Clarisse à moi, mais Clarisse, qui est vraiment une jeune fille, elle pour le coup vraiment atypique et qui a tendance à le pousser à réfléchir. Elle comprend pas pourquoi cet homme qui a l'air si particulier fait ce métier-là. Et il finit par garder un bouquin chez lui et ça le mène tout droit dans la gueule du loup parce qu'il est pompier et qu'il est immergé dans le système et que je vais pas vous raconter la fin, n'est-ce pas, mais
non, mais c'est un bon film sur la connaissance, l'intelligence et le fait que quand tu réfléchis, quand le peuple réfléchit, finalement c'est ça qui est dangereux pour dictature, etc. Et on éradique la connaissance, quoi.
Et oui, et puis en fait dans le film les gens deviennent des livres, c'est-à-dire qu'ils les apprennent par cœur. Donc voilà, chacun devient un livre.
C'est ça, il y a une espèce de société
secrète.
Pas secrète, non, mais marginale.
Voilà.
De gens qui errent et qui apprennent les bouquins par cœur, justement pour qu'on
pas
puisse
que ça
pas,
se perde.
Ça se perde pas, bah, et on moi peut ça, pas les, moi peut ça pas
ça
les voler.
Moi, ça me fait rebondir sur Equilibrium de Kurt Wimmer.
Rebondis,
donc,
mon grand.
Avec Christian Bale. Donc en fait, c'est à Libria. Donc, et donc, qui est une société totalitaire où les sentiments sont honnis. On donne à tout le monde des drogues pour qu'ils soient tout calmes. Et en fait, il y a une police, donc, qui sont un petit peu un style à la Matrix avec des longs manteaux et des lunettes de soleil et qui sont là pour détruire toute offre d'art, c'est-à-dire les bouquins, les tableaux. Et justement, un des coéquipiers de Christian Bale, lui, adore les livres. Et donc, en fait, il en a gardé quelques-uns chez lui et il sera obligé de se suicider. Et en fait... Christian Bale, lui, sa femme, était justement dans ce sentiment de rébellion et elle a gardé quelques livres et en fait, on est venu la kidnapper, quoi. Et donc, lui, il va commencer à changer là-dedans et évidemment arrêter de prendre cette drogue et commencer à réfléchir par lui-même. Bon, après, c'est vrai qu'on tombe aussi un peu dans des facilités de combat. C'est-à-dire que le monsieur, il est tout seul, il a deux flingues, les autres, ils sont 42 avec des mitrailleuses et lui, il s'en sort avec même pas une grille.
Tu peux pas comprendre parce que t'es pas un vrai héros.
Ouais, non, mais je trouve ça un peu simpliste. Mais bon, voilà, pour l'univers...
C'est une facilité de scénario pour le film.
C'est pour l'univers, ça ressemble assez. Et puis, je voulais aussi parler d'un petit film et assez rapidement, d'Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Cochon de Jean-Luc Godard,
ah
donc
oui.
en 1965, avec Eddie Constantine et Anna Karina. Donc Lemmy Cochon est envoyé par les pays extérieurs pour détruire le cerveau électronique Alpha 60 qui dirige Alphaville. Ce film est un plaidoyer pour la liberté, une nouvelle déclaration d'amour à Anna Karina. Donc voilà, puisque à un moment, le personnage dit « je vous aime » et c'est un mot interdit à Alphaville.
Ah ouais, souvent ça, on a ça aussi. On a ça dans 1984.
L'histoire d'amour interdit, ouais.
Michael Radford, mais carrément pas que l'histoire d'amour, en fait. Toute la sensualité, tout ce qui peut être se rapprocher des sentiments ou du plaisir est interdite. Visiblement pas le sexe, pas la reproduction en tout cas. Mais voilà, tout ce qui est sentiment. Donc 1984, d'après évidemment George Orwell, film sorti en 1984.
Oui.
Fabuleux. Le 14 novembre, Anna.
Ah là là, joyeux anniversaire.
Oui, merci. À toi aussi. Donc le monde divisé en trois régions, voilà, Océania, Estasia et Eurasia, qui sont en guerre. Ils nous inventent un truc hein, pour la guerre. Ils nous disent que c'est pour pourquoi déjà ? Oui, pour contrôler le quart monde et l'Antarctique. Le quart monde, c'est évidemment là où on a mis tous les pauvres. Hein,
bah, oui.
Voilà.
Évidemment.
Et évidemment, à mon avis, toutes les richesses aussi, les ressources naturelles.
Ça va quand même, dans la dystopie, excuse-moi de t'interrompre, mais...
Je t'en prie.
Il y a toujours cette... j'ai l'impression qu'il y a, enfin pas toujours, mais souvent, la classification des gens, je ne sais pas si c'est parce que c'est plus simple pour raconter une histoire,
oui.
mais tu sais, les pauvres sont quelque part, les riches sont quelque part.
Mmh. Parce que c'est un peu... Enfin, en tout cas, si... Si dans le monde d'aujourd'hui, c'est dans le monde global, la géographie compte vachement parce que le sud et le nord, l'opposition existe. En France, par exemple, pour prendre un pays particulier, c'est pas vraiment au point de vue géolocalisation.
C'est au point de vue centralisation.
Mais en tout cas, ça existe et la lutte des classes, ça existe.
Bah oui, et je pense que c'est
ah bon.
Je pense que c'est aussi plus facilement repérable pour soit les lecteurs, soit pour les spectateurs.
Enfin voilà, chez eux, en tout cas, la société, elle est divisée en trois castes. Donc le parti intérieur, vraiment là, c'est le haut de gamme. Le parti extérieur, on va dire que c'est la middle class. Et les prolétaires qui, eux, carrément sont parqués et considérés comme des animaux. Big Brother is watching
ah ouais.
you, est le maître de l'Océania. Son visage est affiché partout, sur les murs, les télécrans. Enfin voilà, c'est... la télé donc peut te regarder chez toi et même te gronder.
C'est vachement sympa.
C'est bien ça.
Mais il a un adversaire, Emmanuel Goldstein, qui dit que donc ouais la guerre sert à maintenir le monde dans l'état dans lequel il est. Et dis donc, Emmanuel Goldstein, il y en a là-dedans. Donc Winston Smith, qui est donc joué par John Hurt, lui
oui.
c'est un, il travaille au ministère de la vérité. Il doit revoir, alors c'est rigolo parce que du coup il doit revoir les archives pour les faire correspondre à la version officielle du parti, ce qui est vachement drôle quand tu parles de vérité, mais enfin bon, voilà, comme si elles pouvaient être plusieurs. Il a un peu des problèmes à ça, il pense trop par lui-même, dis donc. Donc
et
il
oui.
a du mal avec son métier, il craint d'être repéré par la police de la pensée et il vit une histoire, voilà, une histoire d'amour avec Julia. Alors que le régime de Big Brother nie l'amour, l'insensualité, les sentiments, etc. Mmh. Lui, il pense à Julia, Julia pense à elle. Il pense que la légende est un mythe, en fait, hein, de la fraternité.
Mmh.
Et il commence à penser que ça existe. Voilà. Enfin bon, l'histoire va très loin et finit très mal.
C'est très, très creusé, ouais.
Et ça finit très, très mal.
Ouais.
Hein. C'est assez affreux. Je dois avouer que la fin est affreuse.
Ouais, ça me rappelle un peu Brésil de Thierry Guilliam aussi.
Et alors, ce qu'il y a d'autre, non, attends. Ce qu'il y a d'autre d'affreux, c'est, c'est la BO. Donc, c'est dommage parce que Eurythmics, ça fait des trucs pas mal.
Ah oui.
Et voilà. Et donc là, t'as Sex Crime de Eurythmics pour le film 1984. Je vous en mets juste un morceau parce que voilà, faut être curieux dans la vie.
Always someone
Voilà, on a fait un grand plaisir à Gwen, je pense.
Oui.
1984. Maintenant, Clarisse, tu peux parler si tu veux.
En fait, je voudrais parier de main d'argent.
Ah, mais c'est pas le jour.
Mais pour la... c'est pas de l'anticipation, tout à fait.
Désolée, mais...
Moi, ça me fait penser à THX 1138 de George Lucas.
Je croyais que ça te faisait penser à Brésil, je comprends
oui.
pas.
Oui, mais ça fait...
Ça fait penser à plusieurs choses.
Mais oui, bah oui, j'ai plusieurs étages. En 1971, donc avec Robert Duvall. Et donc, blanc est l'unique couleur, ou plutôt l'unique absence de couleur qui baigne une société confinée sous l'écorce terrestre, régie par des ordinateurs, soumise à un dirigisme absolu et dont les membres ne sont que des numéros à demi écervelés. On ignore le pourquoi du comment ils sont arrivés là, ni sa finalité, ni qui dirige vraiment. On ne voit que des gens devant des ordinateurs et des policiers sans visage. Il y a la révolte donc d'un des membres, THX, qui s'échappe vers la surface et vers le rouge crépusculaire d'un soleil depuis longtemps oublié. Crâne rasé et port d'habits blancs, répression sexuelle, usage de drogues calmantes, aliénation par la télé, religion d'État,
comme c'est étrange,
n'est-ce pas, manifestée par des confessionnels omniprésents et un Christ très supplicié. Il y a des grands vides, c'est-à-dire des couleurs vides, il y a beaucoup d'absence. Quand George Lucas l'a sorti, ça a été vraiment un choc parce que les gens s'attendaient plutôt à une science-fiction vraiment plus Guerre des Étoiles.
Ah oui.
Et voilà,
la dystopie de George
voilà,
Lucas.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça a été vraiment un gros choc. Et n'empêche que George Lucas l'a utilisé, puisque c'est comme ça qu'il a créé le fameux son THX. Donc, il est venu de ce film.
Oh, de Dieu.
Et d'ailleurs, à un moment, c'est très marrant parce que les flics le poursuivent et à un moment, ils s'arrêtent de le poursuivre. C'est parce que ça coûte trop cher à la société.
Moi, en parlant de drogue, je vais rebondir sur A Scanner Darkly
oui,
de 2006,
mm-hmm.
Qui est donc un film de Richard Linklater, évidemment tiré d'un roman Substance Mort de Philip K. Dick.
Oui, on avait fait une émission spéciale d'ailleurs.
Ah, bah alors ça c'est fabuleux. Alors c'est un film tourné, alors tu vas me dire si je me trompe, c'est pas la rotographie ?
Oui, c'est rotoscopie.
Voilà. Rotoscopie, alors donc c'est filmé normalement et on ajoute dessus un espèce d'effet dessin.
Voilà, c'est ça.
Je dois avouer que ça m'a un peu fatigué le cerveau quand même. Du coup ça gigote dans tous les sens.
Oui, mais c'est fait exprès.
Et ben ça te donne l'impression d'avoir pris de la cam, effectivement.
Oui, mais c'est ça.
Donc là c'est l'histoire de Bob Arctor, Fred, qui est donc Keanu Reeves. Qui est donc un policier des stupes infiltré chez les toxicos. Il vit avec Luckman, qui est donc Woody Harrelson, et Barris, qui est donc Robert Downey Jr., mm-hmm. et Donna, qui est donc Winona Ryder, qui est sa copine. Les trois mecs, donc, dont le policier, sont accros à la substance M, donc cette drogue qui te fait complètement perdre les pédales. Hein. Elle est hallucinogène, tu finis vraiment très très mal. Un jour, donc, dans son boulot, ses supérieurs lui demande d'enquêter sur Bob Arctor, donc lui-même.
Oui.
Parce qu'en fait, en tant qu'enquêteur, il a une espèce d'un anonymat grâce à une combinaison étrange qui le fait ressembler à tout le monde et à personne. Ce qui fait qu'un jour, voilà, il se retrouve à avoir comme cible lui-même. Et il est bien emmerdé parce qu'en plus, il est camé. Et donc, on tombe vite fait dans la schizophrénie. Et voilà, c'est une histoire complètement folle.
Ah.
C'est une histoire complètement folle.
Ah, oui, je confirme. Ouais, oui.
Voilà.
Elle est pas mal, c'est vrai. Elle est chiadée, comme on dit.
Alors, et ça te fait rebondir sur quoi ?
Sur quoi ? Sur les drogues ? Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de films où justement on tient les gens grâce à la drogue, hein. Notamment dans toutes les sociétés. Voilà. Après, j'ai pas spécialement de films qui font référence à ça.
Ça parle drogue, mais alors du coup, j'ai autre chose. J'ai un film un peu idiot, mais qui marche. Idiocratie.
Ah oui.
La grosse comédie.
Exact.
De 2007 de Mike Judge. Donc là, on est dans la dystopie, clairement, sauf qu'on se marre quand même, parce que c'est vraiment très crétin. Mais c'est surtout le monde qui est crétin.
C'est crétin, mais moi, je me marre, mais je ris jaune hein, quand même.
Mais oui, parce que ça nous fait penser à notre monde actuel.
Et ouais. Et là, il y a vraiment un gros, gros rapport avec le monde actuel.
Surtout les États-Unis quand même, qui sont...
Mais surtout les États-Unis, alors je suis pas sûre, enfin je sais pas, mais... Je sais que quand tu regardes
l'idiocratie,
l'omniprésence des marques, le fait que tu mates la télé avec des pubs toutes les 30 secondes, avec des programmes hyper idiots,
C'est violent.
Et la façon dont les gens se parlent aussi.
Ah ouais, la façon dont les gens se parlent, la façon dont les dirigeants dirigent le monde avec une certaine non-écoute pour les scientifiques et pour la réalité. Bah,
les seuls scientifiques qui restent, enfin, c'est pas grand-chose du coup.
Voilà.
Oui, même la justice.
Oh là là, oui, c'est très drôle, remarque. Du coup, c'est Joe Bower, qui est donc joué par Luke Wilson, que je ne connais pas.
Qui est plutôt idiot.
En fait, dans la vraie vie, Joe Bower, c'est pas un idiot. C'est vraiment un gars banal qui est bibliothécaire dans l'armée. Visiblement, ils ont l'air de dire qu'on ne fait rien quand on est bibliothécaire dans l'armée. Il est tranquille, il est peinard et du coup, il est choisi exprès pour ça, pour une expérience scientifique.
Parce qu'il a le degré zéro.
C'est ça, personne s'intéresse trop à lui. S'il disparaît, on ne saura pas trop. Enfin, voilà. Du coup, il est choisi pour une expérience scientifique de cryogénisation pour être éveillé un an plus tard avec Rita, qui est donc une prostituée. Que ça arrange de disparaître un moment
oui, puis en plus, et personne s'inquiète plein de fric
spécialement
aussi.
Voilà, et elle veut du pognon,
c'est pour faire des tests sur la cryogénisation
et en fait il y a un léger problème avec le responsable de l'expérience scientifique dans l'armée, ce qui fait que le projet est enterré, le bâtiment détruit et qu'on zappe complètement Joe et Rita. Heureusement 500 ans plus tard heureusement si j'ose dire, comme on a complètement abandonné le tri des déchets etc, le recyclage,
il n'y a pas de Wally,
du coup il y a la grande avalanche de poubelles qui se passe et qui donc met à jour les espèces de sarcophages de cryogénisation de Joe et Rita, et Joe se retrouve avec Rita propulsé dans le monde de 500 ans plus tard où le monopole des entreprises, enfin les entreprises dirigent le monde en fait, hein, où on peut dire putain à tout va dans les pubs, les gens sont crétins, se parlent n'importe comment, c'est infâme.
Puis alors quand tu le racontes comme ça, si t'as pas vu le film, tu te dis ouais, enfin.
Ouais, non, mais
le monde est dirigé par les entreprises, les gens se parlent n'importe comment.
Voilà, donc là c'est poussé à l'extrême et ils sont infâmes. Les
surtout qu'au début on montre deux couples différents, donc un qui est techniquement jugé intelligent et l'autre qui sont médiocres. Et eux, les gens intelligents hésitent à avoir un enfant, ils se posent beaucoup de questions, est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants et tout. Et finalement, lui par contre, le couple considéré comme idiot, eux par contre font des enfants et
c'est
des enfants.
C'est vrai que l'introduction du film est assez drôle. Ça. Et les crétins qui se reproduisent sans réfléchir et de génération en génération, ça
fait qu'il n'y a que des crétins du coup.
Voilà, c'est ça.
Parce que les gens intelligents hésitent alors que les crétins n'hésitent pas et donc du coup, il y a beaucoup de monde.
Et en fait,
c'est intéressant quand même. C'est très intéressant.
Bah écoute, sinon tu peux rebondir sur peut-être autre chose, Anna, elle.
Ouais, je peux rebondir sur autre chose.
Sympa, moi.
On est allé voir au cinéma Tantilda. C'est un dessin animé d'anticipation.
Ah, bah c'est pas bête, non.
On est allé avec Clarisse, d'ailleurs, voir Tantilda, tu te rappelles?
Oui.
Voilà, Clarisse, je crois que t'as aimé.
Oui, beaucoup.
Voilà, donc en fait, c'est l'histoire d'une nana qui est botaniste et qui vit dans un monde où il y a des OGM, une entreprise qui a envie de vendre des OGM. Et de plus en plus, en fait, des choses qui sont de plus en plus génétiquement modifiées. Et ils arrivent finalement à vendre une plante qui pousse avec vraiment très peu d'eau. Et du coup, en fait, cette plante, elle est absolument pas scientifiquement fiable. Et elle occupe le monde et c'est terrifiant. Et finalement, bon, ça se finit bien parce que Tantilda, elle est botaniste intelligente et qu'il y a des gens qui réfléchissent, etc.
Voilà.
Mais c'était un dessin animé d'anticipation très, très bon. Et sinon, comme vous parlez beaucoup de dystopie, c'est vrai qu'il y a pas mal que de ça, pratiquement. Moi, je voulais parler d'une série qui s'appelle Black Mirror. Je ne sais pas si vous connaissez.
Absolument pas.
C'est un coup à aller voir. Je crois qu'il y a deux saisons de 3 épisodes. Les épisodes durent 60 minutes. Et en fait, Black Mirror, c'est de l'anticipation pure et dure. C'est dans 20 ans, qu'est-ce que sera le monde avec les technologies d'aujourd'hui ? Et donc, par exemple, ils poussent à bout le principe de la télé-réalité. Ils poussent à bout le principe... Il y a un épisode qui m'a beaucoup marqué. C'est une nana qui perd son mari. C'est assez affreux. Et en fait, il y a un logiciel qui est créé. Et grâce aux conversations mail, grâce à son profil de réseau social, grâce à tout ça, donc grâce à tous ses mots de passe, va réussir à recréer en fait le profil social du net de son mari. Elle pourra discuter avec cet ersatz de mari en fait en ligne. Et il pousse jusqu'à regarder les épisodes de Black Mirror, vous verrez. Et en fait, c'est moi ce que j'aime bien dans cette série, c'est que on se concentre sur des toutes petites choses, mais du coup, on les pousse au bout. Et on a vraiment absolument beaucoup de détails. Et c'est très bien foutu, donc je vous le conseille.
une série à conseiller. Juste moi, pour parler de... Comme tu parlais d'animation, c'est pas mal, ça me donne l'occasion de le placer. Je savais pas trop où le mettre. Ghost in the Shell. Donc des mangas futuristes classés dans le cyberpunk. J'ignore complètement ce que ça peut vouloir dire. Punk, je vois bien. Cyber, je vois bien. Le mélange des deux,
c'est,
en l'occurrence.
C'est-à-dire que c'est tout se passe sur le net. C'est les punks sur le net. Il y a le steampunk, c'est avec la vapeur, et le cyberpunk, c'est avec le net.
Donc tu connais vraiment rien au punk, Emily ?
Non, rien. Donc il y a eu deux films d'animation, en plus de la série et du bouquin, évidemment, etc., etc. Donc Ghost in the Shell 1, en 95, et Ghost in the Shell 2, en 2004. Ça se passe à peu près en 2030, et ça raconte la traque d'un cybercriminel, donc là je vois bien jusque-là, Puppet Master, le marionnettiste, prend le contrôle de l'esprit d'un humain, ou de plusieurs d'ailleurs, grâce à l'internet de l'époque qui s'appelle le réseau numérique mondial. Voilà. Ce sont des excellents films.
Voilà, moi il y avait Renaissance de Christian Volkmann, donc, qui est un film d'animation français. Donc, tout se passe en 2054 à Paris. Alors, en fait, Paris est toujours en place. Il n'y a pas grand-chose de changé, à part que la scène est bien plus basse. Les immeubles ont été rehaussés. Et là aussi, évidemment, la bonne société vit en haut, les pauvres en bas. Et en fait, il y a une grande société, Avalon, qui est une société de cosmétiques, dont l'un des professeurs, Ilona Tuzieff, a disparu. Donc en fait, on envoie le détective Barthélemy Carras à sa recherche. Et en fait, Ilona avait découvert les travaux du professeur Müller sur le Progeria. Voilà. Donc en fait, qui est un virus qui vieillit en accéléré les enfants. Tu vois, le fameux où ils deviennent
dieux. Ah oui, la Progeria. Ouais, oui, voilà.
Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze. Il n'y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Il faut que ça pop, pop, pop. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de deux mots de vocabulaire. Il faut que ce soit green, ok? Ok?
Et en fait, voilà. Et en fait, derrière, il y a un secret que le détective va découvrir. Et là aussi, c'est aussi le monopole des sociétés de consommation. Voilà. C'est sur l'immortalité.
Très bien.
Mais il est pas mal. Alors, il est en noir et blanc et il est franchement très très bien. Pas très gay, mais. Il est très
moi,
bien.
Je vais vous faire le film compliqué du jour. Enfin, en tout cas, que j'ai trouvé compliqué. Déjà. Looper.
Ah oui.
Ah, je l'ai vu au cinéma.
Écoute, en tout cas, le scénario est quand même bien tordu.
Tu l'as vu ou pas ?
Parce que ça se mélange. Oui. Oui, mais pas récemment, du coup, pas frais. Donc, et américain, évidemment, avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt et Emily Blunt. Je ne sais pas qui c'est, je ne me rappelle pas. Donc, de Rian Johnson, sorti en 2012. Ça se passe en 2044, enfin, en partie, évidemment, parce que du coup, c'est le film tordu du jour. Joe est un tueur à gages, mais il exécute des cibles venant du futur.
Oui.
C'est un looper, donc c'est la mafia du futur qui envoie les cibles. Dans le passé, parce que les techniques de la police scientifique du présent sont trop pointues et donc c'est un peu difficile.
En plus, les cornes, ils n'existent pas.
Voilà, donc c'est pas.
Les quoi ?
Les cornes n'existent pas puisque c'est des gens qui viennent du futur. Non
voilà, c'est ça. Tout fonctionne bien, enfin a priori, sauf qu'un jour Joe doit tuer Joe de 2074. Donc c'est pas pratique et à partir de ce moment-là, il faut suivre parce que.
Oui, mais c'est le coup du looper, c'est la boucle.
Voilà.
Bout d'un moment, les tueurs à gages, ils doivent disparaître aussi parce qu'ils deviennent gênants.
Gênants, exactement. Donc là, c'est quand même le bordel avec le vieux Joe, le jeune Joe,
parce que forcément, il y a une poursuite et tu continues.
Et puis ils ont des intérêts communs et puis des intérêts
divergents.
Voilà. Et puis une histoire d'amour aussi.
Parce ce qui est terrible, c'est quand même le type là parce qu'il avait fait une erreur, il a oublié de tuer son futur et après. Ça se passe très mal quand la mafia t'attrape.
De toute façon, en règle générale, ça se passe plutôt mal quand la mafia t'attrape.
Il vaut mieux éviter que la mafia t'attrape. Voilà. Premier conseil du jour.
Moi, j'avais un grand classique, Soleil Vert de Richard Fleischer, en 1973, avec Charlton Heston. Donc, l'histoire se passe en 2022, donc dans pas longtemps, à New York, il y a 40 millions d'habitants. La pollution, évidemment, règne. La nature est anéantie. Il y a des légions de pouilleux. La nourriture est délivrée par contre par le gouvernement, donc il y a le soleil jaune, le soleil rouge et évidemment le soleil vert, titre du film qui paraît-il est du plancton. Et c'est en enquêtant sur la mort d'un dirigeant que le flic Rip Torn va découvrir l'horrible vérité.
C'est pas du plancton.
Non, la société Soline, en fait, récupère des cadavres humains et les transforme donc en aliments.
Il n'y a pas de petites économies.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est un film assez réaliste avec les fameux camions Ben qui ramassent à l'appel les protestataires, les riches qui vivent dans, évidemment dans l'opulence, dans la ville d'en haut, au milieu de leur mobilier. Donc, entendez les prostituées hein, potiches. Hein. Et en plus, il y a aussi le rapport de Rip, donc avec son vieil adjoint qui, lui, se souvient évidemment du goût de la tomate et du bistec.
Du bistec.
Évidemment. Voilà. J'essaie de rebondir, mais j'ai beaucoup de mal en fait.
Sur Soleil Vert, c'est difficile. Hein.
Mm-hmm.
Je peux peut-être rebondir avec Mad Max en fait.
Bah, ouais. Allez, vas-y.
Oui, parce que c'est aussi une société en déliquescence.
Ouais, puis il fait chaud.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que.
Soleil,
ouais.
Il fait chaud.
Oh, ouais, on trouve on a des super transitions aujourd'hui, nous.
Oh. Donc Mad Max, c'est un film de George Miller qui date de 79.
Non.
Si. Si, tout à fait. Donc, en gros, c'est un monde qui est abandonné à l'anarchie. Quoi. Il y a eu des gros soucis.
Apparemment, il y a eu une guerre du pétrole.
Voilà, il y a eu une guerre du pétrole.
Le chaos plutôt que l'anarchie.
Ouais, mais du coup, le chaos entraîne l'anarchie, en fait.
Oui, et puis
l'anarchie entraîne le chaos. Enfin, c'est un peu un cercle
c'est
vicieux.
C'est un débat.
Et du coup, il n'y a plus d'essence. C'est la guerre du pétrole. Et la personne dont on parle, donc, qui est le héros du film, il est motard. Hors la loi.
Ouais, en
Australie.
Ouais, mais il est sexy.
Il doit se venger.
Ouais, sauf qu'il a une coupe mulet.
Il fait chaud et c'est Mel Gibson.
Voilà.
C'est ça. Enfin, en même temps, c'est
là,
un gars du pays. Hein.
Je crois que j'ai un peu tout dit en fait. C'est vraiment Mel Gibson dans toute sa splendeur, sa beauté et qui se bat contre le monde entier et plus encore. Et parce qu'en
et
plus, il lui arrive.
Et même contre Tina Turner.
Il lui arrive des grands déboires. Il a des grandes vengeances familiales, personnelles à régler. Et est-ce qu'il va y arriver ?
Voilà. Et c'est marrant parce que...
Et du coup, il y a Mad Max 1, 2, 3.
Ouais, c'est ça. Avec le dôme sous le dôme du terreur, avec la fameuse chanson de Tina Turner.
Je ne l'ai pas.
We don't need another hero. Et moi, ça me fait penser...
Mad Max... Je peux finir ?
Oui.
Ça fait 8 fois que tu me coupes, quoi. J'en peux plus.
Je vous en prie, mademoiselle.
Mad Max, du coup... c'est bon, j'ai fini. Tu m'as gavé.
Ok.
Non, parce que ça me fait penser à l'inverse. Là, c'était dans le sec. Et là, il y a Waterworld, dans l'eau.
Dans le mouillé.
Voilà, c'est ça. Là,
super.
Oui, c'est rempli d'eau.
Voilà, alors moi ça me fait pas penser à quelque chose, mais comme j'aime bien parler. Je vais parler du cinquième élément, parce qu'il faut y venir. Après ça va pouvoir vous lancer sur d'autres trucs, tout ça va être chouette. Donc de Luc Besson, de 97.
Oui.
D'ailleurs un des derniers bons films de Luc Besson, non il me semble, qu'est-ce que vous en dites?
Oh arrête.
Oui.
Ok, bon, enfin, en tout cas ce n'est que mon avis, et je le partage avec moi-même.
Oui.
Hein.
Bah, en fait il l'a fait pour sa femme en même temps.
Voilà. Donc Corbin Dallas, on est en 2263. Corbin Dallas qui est chauffeur de taxi, qui est Bruce Willis.
Chauffeur de taxi, volant.
Et qui est ultra sexy, évidemment. Fait la rencontre de, fracassante d'ailleurs, de Lilou qui est Mila Jovovich et qui est plutôt pas mal
oui.
D'ailleurs.
Elle est parfaite, hein, paraît-il.
Elle est, écoute.
Oui.
Lilou Dallas Multipass.
Et Tom
mais ça c'est hyper loin dans le film.
On s'en fout, c'est Lilou Dallas Multipass.
Elle lui demande
son aide, please help. On a évidemment Gary Oldman, le méchant, qui s'appelle Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Donc il a un prénom à donner des cours de catéchisme.
Oui.
On a Ian Holm qui est donc le père Vito Cornelius, Chris Tucker qui est Ruby Rhode. Et Mathieu Kassovitz qui se glisse là-dedans, c'est assez rigolo, qui était un voleur en manque de drogue dans le couloir de Corbin Dallas.
Avec un super chapeau.
Savez-vous le vrai nom de Lilou ?
Non.
Lilou Minai Lekatariba Lamina Chai Ekbat Desebat.
Ah oui, elle le dit à un moment. Oui.
Voilà, donc c'est pour ça qu'après on coupe à Lilou, c'est pas mal. La musique est d'Eric Serra, ça amène quelque chose. Hein,
le grand bleu.
Voilà. Sauf évidemment le moment de la diva là, qui s'appelle la diva Plava Laguna.
Bah, c'est exceptionnel comme moment.
Oui, mais je l'ai si tu veux d'ailleurs, si ça te fait plaisir. C'est l'opéra Lucia di Lammermoor. D'accord, de Gaetano Donizetti.
Eh oui.
Voilà. Et donc l'histoire, vas-y, résume-moi l'histoire parce qu'elle est compliquée. Hein. Enfin, moi, ça me semble compliqué.
Je te résume l'histoire du cinquième élément. C'est l'histoire d'un chauffeur de taxi qui vit donc dans un monde futuriste avec des voitures qui volent et des distributeurs de domotique de partout et des gens très bizarres qui est en fait un ancien flic et qui va devoir encadrer Lilou.
Ouais, mais alors moi, c'est l'histoire de 1914 qui me perturbait, que je voulais qu'on raconte, mais. Quand ils arrivent dans le temple première fois les extraterrestres
parce qu'en fait Lilou c'est le cinquième élément, le monde va être détruit si elle désactive pas la bombe qui est elle en fait, et pour désactiver la bombe il faut les quatre pierres réunir les quatre pierres au temple. Et le problème c'est que personne veut trop le faire et que c'est un peu la galère quoi. Donc il faut aller chercher les quatre pierres qui ont été volées par machin bidule et retourner au temple hyper vite. Enfin
voilà, c'est un excellent film par contre, je peux super, le dire. Ouais.
Et elle se demande même à un moment si elle a super envie de sauver ce monde-là. Oui.
Bah, tu m'étonnes, elle découvre le monde rapidement sur un ordinateur et elle se demande un peu ce qu'elle fait.
Et elle tombe « the war ».
La guerre, c'est
ça
pas
aurait
bon.
Été en français, ça aurait été à lettre G, ça aurait été plutôt. Oui, là c'est la lettre W.
Oui, on fait comme on peut avec les traductions, tout ça.
C'est un très 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 bon film, tu as raison d'en avoir parlé. En plus, il y a toutes ces inventions, toutes ces manières de vivre et tout. Les méchants sont vraiment méchants.
Moi, et c'est... Gary Oldman est cool.
Voilà. Et moi, ça me fait penser justement, en parlant de voitures volantes, à Blade Runner de Ridley Scott en 1982. Donc en 2019, donc dans 5 ans en gros.
Oui, ça va pas être possible.
Il y a 4 réplicants, donc des humanoïdes. Résistants qui ont été créés par la Tyler Oil Corporation, donc dont la devise est plus humain que l'humain est notre devise, se rendent à Los Angeles. Donc pour les traquer et effectuer leur retrait, selon le terme technique, on fait appel à Rick Deckard, un Blade Runner. Donc c'est une section de la police créée à cet effet, et donc Harrison Ford en Bogart de Chandler au 21e siècle, avec évidemment vraiment la ville. Durant la nuit, une ville grouillante, surpeuplée, cosmopolite, avec beaucoup de Chinois et d'Espagnols, et toujours pluvieuse, avec une urbanisation gothique à la Frank Lloyd Wright, et évidemment la musique de Vangelis.
Ah oui.
Et le héros qui est malmené du bout en bout, hein. Ça veut dire on n'est pas là dans le héros style Sylvester Stallone, c'est vraiment le mec qui se fait toujours tabasser.
Il doit le mériter.
Voilà, il y a Daryl Hannah, Rutger Hauer, Roy Beatty, le fameux, avec sa fameuse phrase à la finale, voilà, mes souvenirs disparaîtront comme les larmes sous la pluie. Et le fameux test Voight-Kampff, et évidemment la Rachel, la réplicante qui s'ignore, et même il y a eu beaucoup de polémiques à savoir si Descartes était aussi un réplicant. Parce qu'il y a les fameuses images où on voit ses yeux qui brillent rouges, et logiquement c'est ça. Et en plus, ce qui me fait aussi rebondir, puisque ensuite Ridley Scott fera les aliens, et dans les aliens on voit aussi les fameux réplicants, hein. Ceux qui voudront évidemment capturer l'alien et le délivrer à la fameuse société. Et on verra, le dernier sera dans le Prometheus, sous les traits de Michael Fassbender.
Juste pour rebondir, mais alors très rapidement, parce que là, on commence à manquer de temps déjà. Zut. Moon, de 2009, qui est un film génial. Anglais. Voilà, il paraît qu'il est génial, parce que je ne l'ai pas vu. Mais là, pour qui est qui et qui est quoi, et pourquoi il y a plusieurs mois, je vous le conseille.
Ouais, c'est ça.
En tout cas, c'est un coup à se paumer dans le synopsis. Mais voilà, ça se passe sur la Lune, en tout cas. Il y a Sam, et Sam, il commence à avoir des hallucinations, et il découvre des trucs pas cool. Voilà.
Ah ouais, il est très très bien fait, avec Sam Rockwell.
Il a eu des prix, enfin en tout cas ça a été c'est une référence dans le monde de l'anticipation.
Ouais. Et moi je voulais faire aussi un petit hommage à l'Angleterre, parce que l'Angleterre est souvent le cadre de dystopie, puisqu'on a 28 jours plus tard, V comme Vendetta, ouais. Doomsday. Bon, là, c'est spécialement Écosse. Donc voilà, et c'est vrai que ça se passe souvent sur cette île. Et puis,
parce que c'est une île, en fait, du coup, ça permet de faire en sorte que ça ne soit pas forcément étendu à tout le... au monde
voilà,
entier.
Mais c'est,
en fait,
c'est,
voilà,
et ouais, c'est et pas mal de dictatures, hein, qui justement, puisque là on parlait de virus à un moment, évidemment, V comme Vendetta, c'est aussi une, grâce à un virus qu'ils sont arrivés au pouvoir.
Et puis alors moi je vais balancer mon dernier film, comme ça après Anna pourra nous parler des siens un peu, excuse-nous. La route, donc voilà, encore je parle encore d'un livre, parce que celui-là je l'ai lu de bout en bout d'une traite, j'ai demandé à tout le monde de se taire et de me laisser tranquille, de Cormac McCarthy, qui est Pulitzer de la fiction 2007 quand même, et qui a amené un film qui est pas mal mais moins bien. Voilà.
Si t'as été extrêmement comblé par le livre, c'est toujours compliqué.
Donc là c'est John Hillcoat en 2009 qui réalise le film, qui est carrément donc là post-apocalyptique, avec Viggo Mortensen, Charlize Theron et donc Cody Sutmacfee qui joue donc le fils là-dedans. L'intrigue c'est simple, hein, c'est après un cataclysme dont on connaît pas trop la nature, la mère finit par se barrer, le père se retrouve avec son fils qui a à peu près 10 ans sur la route, et il part en direction de la mer et il espère y trouver en tout cas des gens, des alliés, des vivres, et, sauf que la route est longue et qu'il y rencontre surtout beaucoup de folie, de détresse, de misère, de
la faim.
Voilà, enfin, c'est assez affreux. Il y a une musique qui participe bien à l'ambiance, tu vois. Je vous en mets un peu pendant que je parle et tu imagines tout ce que ça peut faire. C'est la musique, donc c'est Nick Cave et Warren Ellis, et ça donne une atmosphère particulièrement angoissante à certains passages du film.
Ouais, parce que tu te demandes même si l'humanité va résister à ça, quoi.
Bah tu le sais pas à la fin d'ailleurs, ouais, c'est carrément le bordel.
Ça, ce qui me fait rebondir rapidement sur deux films qui sont éponymes. Je suis une légende en 1964 de Sidney Salco, et dernièrement Je suis une légende de Francis Lawrence avec Will Smith. Donc ça, en fait, c'est un virus mutant qui s'échappe d'un laboratoire et qui transforme peu à peu l'humanité en une horde de vampires. Donc reste un seul homme, un scientifique, qui est immunisé et qui va tenter de survivre. Avec Will Smith, en fait, Neville devient un scientifique de l'armée. New York est livré à la végétation et aux animaux, comme on le verra dans L'armée des 12 singes de Terry Gilliam en 95. Et évidemment, il y a aussi la scène où il y a le fameux combat avec le mannequin où il se fait attraper. C'est là où on verra les Avengers aussi se défendre contre les aliens. Et il est aussi obligé de tuer son chien aussi. Moment tragique. Par contre, là, c'était évidemment tiré du roman de Richard Matheson.
Il paraît que le livre est vraiment mieux que
oui,
le film.
Oui, voilà, parce que en fait, la fin est bidon, celle de Will Smith, hein, mais l'autre aussi. Hein. Et parce qu'en fait, là, il rencontre une nouvelle survivante, alors que dans le livre, il est vraiment tout seul. Et elle, par contre, elle croit en Dieu. Et c'est cette version-là qui sera vraiment amenée à... Alors que Neville, lui, par contre, n'y croit plus du tout. Et voilà, Dieu triomphe encore une fois. Et je voulais aussi parler du Judge Dredd, puisque, en fait, c'est tiré d'un comics dans les années 90. Et en fait, là, il y a une explosion atomique et il n'y a plus que deux grandes cités, Megacité 1 et Megacité 2. Et évidemment, c'est les juges qui officient en tant que eux, et juges et exécuteurs, et c'est eux vraiment la loi.
Donc, c'est pas dans ce film qu'il y a l'histoire de coquillages?
Non, ça c'est en Demolition Man,
et
mais c'est aussi, mais ça aussi c'est avec Sylvester Stallone.
Ah, c'est ça.
Et le dernier c'était Dredd et c'était avec Ian Carl Urbain. Et là, évidemment, par contre, les comics sont notamment bien plus violents que le film. Hein.
Et après, on va là avec Anaël.
Hey Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure.
La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Toute mon enfance.
Ouais.
Retour vers le futur 1, 2, 3. C'est Robert Zemeckis qui a fait ça. Ces trois films, c'est une trilogie qui est incroyable. C'était en 89, je suis née en 91. Donc du coup, on me les a montrés un peu plus tard. La DeLorean volante.
Ah, oui.
Magique, le compteur qui reste bloqué, formidable. C'est une histoire sur plusieurs aires de l'histoire, sur plusieurs moments. Dans le 1 et dans le 3, ils abordent surtout le passé. Et puis dans le 2, ils vont dans un futur proche, parce que ce n'est un futur que d'une génération. Donc ils se voient, eux, c'est plutôt des adolescents qui vont se voir, eux, adultes. Et donc
c'est 2015.
C'est 2015.
C'est oui. L'année prochaine.
Bah oui, parce que c'est en 80, c'était en 89, donc ouais. ils étaient ados. Et puis donc il y en a un qui est plutôt anticipation. Comment on dit le contraire de la dystopie ?
L'utopie.
L'utopie, voilà. Ouais. Donc où c'est quand même assez sympa. Il y a pas mal de domotique sympa. Ouais. La grand-mère, elle arrive avec
une petite pizza déshydratée.
Il la met au micro-ondes, elle devient énorme. Dans le frigidaire, il y a carrément un potager qui descend. Enfin, c'est assez fabuleux. Et puis, en fait, il montre aussi dans le même film si ça avait vraiment mal tourné. Et alors là, c'est carrément l'horreur.
C'est le monde de Biff Tannen. Voilà.
Ouais, c'est ça.
La ville est à feu et à sang. Et dans ce film, il y a quand même ma réplique préférée. C'est Biff va jouer à Colin Maillard au bord de la falaise.
C'est un conseil qu'on a envie de donner.
Voilà, oui. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une grosse erreur et vous n'avez qu'à courir à
Faut
vos ordinateurs tout de suite.
Les trois, ils voilà. sont drôles.
Et le troisième est dans le western.
Ouais. Et Clarisse, elle voulait dire, elle les a vus, mais... Clarisse, tu l'as vu, mais qu'est-ce que tu en as pensé de Retour vers le futur ?
Très bien.
Mais t'as rien compris, c'est ça ?
Oui.
Voilà, donc à 6 ans, c'est un peu léger, on comprend rien.
C'est encore
fait.
Un peu tôt. Après, c'est un super bon film pour les ados et tout. Enfin,
les
c'est un
enfants,
film d'aventure.
En fait. Ouais, mais ouais.
Bonne musique.
À 7-8 ans, quoi.
Ouais, bonne musique. Et puis, il y a de l'humour, même pour les grands, quoi. C'est fabuleux.
Je suis d'accord.
Et puis, il faut se repositionner dans l'espace, dans le temps. On est là, mais attends, mais pourquoi ça ? Ah oui, mais d'accord. C'est vachement bien foutu.
Ouais.
Nom de Zeus.
Voilà, donc retour vers le futur.
2,21 gigawatts.
Le fameux, il ouais, y a des répliques qui restent comme ça.
Et si vous voulez voir donc, ce fameux passage d'anticipation, c'est dans Retour vers le futur 2. Mais il faut avoir vu le 1, et puis après, quand vous aurez vu le 2, vous aurez envie de voir
le 3. Voilà. Effectivement.
Voilà, ensuite en parlant de trilogie, j'ai Matrix, la trilogie. Mmh. Pour moi, c'était un des premiers films qui m'a vraiment fait peur quand il enlève le truc qu'il a dans le ventre, là, l'espèce de sonde animal pseudo-bio. Là.
Oh bah c'est ce qui le nourrit.
Ouais, c'est dégueulasse. Donc Matrix, la trilogie, ça part du principe qu'on vit tous dans un monde informatique où on n'est pas vraiment réel. C'est la matrice. Rien n'est vraiment réel. On
et
est les esclaves
qui est réel
des
et
robots.
Qui
voilà, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est toute la question de la trilogie. Il y a un gros débat sur cette trilogie. Il y en a plein qui disent que le premier film aurait suffi, que les deux autres étaient trop.
Ouais, ou alors moi je dis que le troisième aurait suffi.
Ouais, non. Après...
Moi j'ai bien aimé la trilogie.
Ouais, moi aussi.
T'en as vu aucun, Clarisse.
Oui, non, alors c'est pas du tout pour les enfants de 6 ans, hein, clairement. C'est plutôt flippant, c'est très philosophique.
J'ai pas 6 ans.
Oui, t'as 5 ans et demi. Mais je sais pas du tout pour les enfants de 5 ans et demi. Et donc du coup voilà, c'est hyper flippant, mais en même temps c'est plutôt chouette et il y a des bons personnages.
Ouais
trouve.
Ouais, Trinity et Morpheus. Ouais. Oui, c'est vrai que et puis ce côté en plus nous on est dans une ère informatique où effectivement on a un peu peur de ça et puis je pense que c'est aussi il y a eu pas mal de films là-dessus ou même comme dans Terminator, c'est le combat de la machine contre l'homme quoi.
Ouais, tout à fait. Le combat de la machine contre... Vous avez tout terminé, tous vos films ?
Moi, j'ai tout.
Moi, j'ai juste Iron Flux, donc de Karine Kusama, donc en 2005. Donc, en 2415, donc il n'y a plus que 5 millions d'habitants qui vivent dans un Wonderland truqué qui s'appelle Bregna. Donc, voilà. Donc, 400 ans plus tôt, c'est-à-dire l'année prochaine, quoi, hein, il y a un virus qui exterminera 99% de la population. Donc voilà, ils vivent dans cette ville régie par la dynastie des Goodchild.
Pensez à vos probiotiques.
Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, il y a les Monicans, donc qui sont des résistants et qui dont la championne n'est autre que Iron Flux, qui décide d'éliminer Goodchild. Mais évidemment, leur rencontre va réviver des souvenirs d'un autre temps, puisqu'il faut savoir que le virus a créé la stérilité. Donc, il n'y a plus eu de naissance.
Ah, c'est
et en fait,
cool.
c'est des clones, jusqu'au jour où en fait, on va découvrir qu'il y a vraiment eu des femmes enceintes, mais qu'on les a fait disparaître, parce qu'il y a des gens qui préfèrent rester dans cette dictature plutôt que de changer.
D'habitude.
En parlant de stérilité... On peut parler des Fils de l'Homme.
Ah oui,
les Fils de l'Homme.
Ah, il est génial.
Le film d'Alfonso Cuarón qui est sorti en 2006. Donc, c'est l'histoire du monde, hein, avec plus aucune naissance.
Oui, il y a 18 ans.
Pas vraiment pourquoi. Hein.
Voilà, il y a 18 ans qu'il n'y a plus eu de naissance.
Voilà, donc tout le monde est vieux. Et là, d'un coup, il y a une femme qui tombe enceinte. Et donc, c'est... comment il s'appelle ? C'est quoi l'acteur principal ?
C'est Clive Owen.
Merci. Qui va la prendre sous son aile pour lui faire traverser le pays.
Pardon.
Pour lui faire traverser le pays, pour l'emmener chez quelqu'un qui va savoir comment faire. Quoi.
Et là, on est, on est encore en Grande-Bretagne.
Ah oui,
voilà. Et donc, ils vont devoir traverser l'océan, d'ailleurs, à un moment. Enfin, la mer.
La Manche.
La Manche. Mmh. Ils essayent, puis en fait, finalement, ils ne peuvent pas. Puis alors, finalement, ils revont dans les terres. Puis c'est une histoire.
Oui, moi, il y a le passage où, tu sais, ils sont dans le bâtiment. Et là, il y a l'enfant qui se met à pleurer parce qu'elle a accouché. Et l'enfant qui pleure. Et tout le monde s'arrête. Parce que ça fait quand même 18 ans qu'on n'a pas entendu un enfant pleurer. Et ils s'arrêtent tous. Et là, après, ils reprennent tout ça, à se tirer dessus. Quoi.
Voilà, et puis, du coup, elle est quand même poursuivie. Enfin, il y a quand même une histoire pas super chouette. Il faut l'éloigner de la guerre. Il faut que l'enfant survive et qu'on comprenne pourquoi elle a eu un enfant. Est-ce qu'il va bien ? Comment est-ce qu'elle peut en avoir d'autres, du coup ? Enfin...
C'est ça, parce qu'il n'y a aucune explication. On voit, en fait, Théo et donc le personnage est alpagué, kidnappé même par son ex, qui fait partie d'un groupuscule qui s'appelle Les Poissons. Qui est sans doute une référence aux premiers chrétiens. Et en plus, oui, parce que c'était les premiers symboles des chrétiens avant la croix.
Oui, non, mais d'accord, je vois pourquoi. Ah, parce qu'il est attendu comme le Messie, le gamin, et du coup.
Bah, c'est-à-dire. Non, et puis en plus, la jeune fille est noire. Moi, c'est une référence à Lucie. Enfin bon, voilà, on peut le prendre comme on veut. Et puis.
Il a fait son analyse, hein. Fais pas cette tête-là.
Je suis pas du tout d'accord avec cette analyse.
Mais... Oui, oui, mais voilà. Et puis, ils sont aidés, évidemment, par Michael Caine, qui est un hippie. Non mais franchement il est très très bien, il est très réaliste et très sombre surtout.
Oui, hyper chouette. Ensuite, j'avais Minority Report, qui est sorti en 2002, c'est Spielberg qui a fait ça, c'était un film que Stanley Kubrick devait faire.
Ouais, oui oui tout à fait, oui et qui n'a pas pu.
Vous l'avez vu ?
Oui absolument.
Oui.
Vous avez aimé ?
Oui, oui absolument.
Il faut que j'aille très vite.
Oui, absolument.
Donc, c'est sorti d'un roman de Philip K. Dick en 1954. Enfin, c'était une nouvelle plutôt qu'un roman. Un roman.
Ah, c'est la deuxième fois qu'on parle de Philip K. Dick.
Oui, mais on en avait parlé dans l'émission spéciale Philip K. Dick.
Oui, tu m'étonnes.
Donc, je ne le redis pas. Minority Report, on en avait parlé dans l'émission spéciale Philip K. Dick.
Ouais, mais il est très bien.
Time Out d'Andrew Niccol en 2011. Là, on s'arrête de grandir à 25 ans. Et ensuite, il faut gagner du temps, qui est en fait l'argent, pour rester en vie. L'acteur principal, c'est Justin Timberlake.
Ah.
Pour moi, le film est bon. Andrew Niccol, c'est celui, j'en parlerai après, celui qui avait fait Bienvenue à Gattaca. Le film est bon, mais il n'est pas à la hauteur de l'idée de base. Parce que l'idée de base, pour moi, elle est sous-exploitée dans ce film. Et je suis hyper déçue qu'il l'ait exploité de cette manière. Parce qu'on ne pourra pas la réexploiter. Et là, du coup...
Oui,
c'est bâclé, quoi.
Oui, c'est-à-dire que les pauvres doivent courir contre le temps et par contre les riches sont quasiment éternels, quoi.
Oui, voilà. Mais alors ça, c'est une idée de base qui est vraiment chouette avec la ville qui est divisée en zones où tu peux accéder grâce à ton temps ou pas. Mais du coup.
Et puis avec cette originalité, c'est que ta mère, ta femme et ta fille ont le même âge. Donc pour les différencier, c'est génial.
Elles ont pas la même tête.
Oui, non, mais je veux dire pour les autres, ceux d'en face.
Ah, ceux d'en face, parce que...
C'est tout le monde à 25 ans.
Oui. Bah, tant mieux, comme ça, on se trompe pas, moi.
Et ensuite, donc, Bienvenue à Gattaca, d'Andrew Niccol, dont je viens de parler, qui est sorti en 97. Dans Bienvenue à Gattaca, c'est un film dans lequel on est à la recherche de la perfection génétique.
L'eugénisme.
Voilà, donc, alors, naître de manière naturelle, c'est une erreur, quoi, parce que du coup, tu vas pas être parfait.
Bah oui.
C'est un très très beau duo avec Ethan Hawke et Jude Law sur justement cet échange de... du coup, il y en a un qui est parfait mais qui ne peut pas vraiment réaliser ses rêves et l'autre qui n'est pas parfait puisqu'il n'est pas né avec cette histoire de génisme mais qui a des rêves et qui a les capacités de les réaliser et ils vont briser comme ça le génisme. Et c'est assez chouette et surtout le duo porte le film selon moi qui était un de mes films préférés qui est un de mes films préférés depuis que j'ai 10 ans. Et ensuite pour finir pour moi, alors c'est pas le meilleur pour la fin mais c'est quelque chose d'actuel, Hunger Games.
Oui.
Donc, c'est pas le meilleur effectivement.
Voilà, qui est sorti en 2012, le premier. Et depuis, ils en sortent un tous les ans, puisqu'il y en a eu un en 2013 et il y en aura un en 2014. Ouais. Peut-être un dernier en 2015. Il y a 3 bouquins, peut-être qu'il y aura 4 films, je ne sais pas.
Ouais, bah, comme d'habitude.
Voilà, donc là, c'est Panem, à Panem, le Capitole, qui en fait organise des jeux du cirque entre tous ces districts. Enfin, c'est lamentable. C'est une inspiration de Battle Royale en beaucoup moins violent.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Je confirme.
Et puis, moi, je suis un peu déçue de voir qu'aujourd'hui, quand on fait des films d'anticipation, on est obligé de rajouter une histoire d'amour niaiseuse à souhait avec des gens qui tirent la gueule en permanence. Enfin, bref. Voilà, c'était un peu ma grosse déception des films d'anticipation de la journée.
Ouais, mais je pense que c'était aussi un film, des bouquins d'anticipation, mais pour ados. Donc, c'est peut-être aussi, ouais. ils ont essayé de faire un peu plus édulcoré.
Je sais pas parce que t'es un ado que t'es idiot.
Ah, j'ai jamais dit ça, mais je dis que c'est plus commercial. C'est juste ça.
On a fini, on parle du pestel ? Allez, pestelon.
Alors, où tu veux te lancer, Anaëlle ?
Où ça ? Dans le vide ?
Oui, non. Si tu veux.
Oui, vas-y.
Semaine du
19 au 25 mars.
Bravo.
Oui, la semaine dernière, on a vu Tantilda, c'était vachement bien. On a vu Pompéi, c'était pourri.
Tu m'étonnes.
C'était prévu. Voilà. Alors, 19 au 25 mars, La Cour de Babel de Julie Bertuccelli. J'ai écouté une interview sur France Culture qui était assez fabuleuse. C'est un documentaire sur des enfants extrêmement touchants qui viennent d'arriver en France. Et qui doivent aller en classe d'accueil, en fait, classe de transit, pour apprendre à parler français, pour apprendre la culture. Et pour, ils sont tous des origines sociales différentes. Hein. On n'est pas du tout dans l'espèce de pathos où ils sont tous pauvres. Non, pas du tout. Il y en a des très riches, fils d'ambassadeurs et compagnie, a priori. Mais en tous les cas, ils ne peuvent pas aller tout de suite dans le grand bain, puisqu'ils n'ont pas les bases. Et donc, elle a filmé cette adaptation, voilà, tout le monde dit que c'est très touchant
oui,
et que
oui, je confirme.
C'est extrêmement charmant. Ensuite, on a Rêve d'or, La Jaula de Oro, de Diego Quemada Tiés, qui est un film mexicain et espagnol. Encore une fois avec des enfants, un périple, une épopée, un partage. Apparemment, c'est drôle, triste, donc touchant. Encore une fois, les acteurs sont absolument incroyables.
Oui, pareil, oui. C'est des enfants du Guatemala qui ont envie d'aller aux États-Unis. Donc, on a tout leur périple entre réalisme et carrément reportage. Donc, franchement, c'est un excellent film.
Voilà, il y a encore un problème de dialogue parce qu'il y en a un qui ne parle pas la même langue que les autres.
Enfin, que je crois qu'il est indien, lui.
Ouais. Voilà. Et ensuite, le dernier, c'est L'Escale. Qui est un film suisso-français.
Oui, c'est quasiment un documentaire.
De Kaveh Bakhtiari. Amir, un Iranien, échoué en Grèce après avoir tenté de rejoindre l'Europe du Nord, s'est provisoirement établi à Athènes. Et donc, en fait, à Athènes, il sert d'appartement escale, donc dans le nom du film, pour les émigrants qui vont donc aller en Europe du Nord, donc en fait chez nous, là où on est.
Ouais.
C'est de l'émigration volontaire, entre guillemets, parce que j'aime pas beaucoup ce terme. Mais a priori, c'est aussi extrêmement touchant et un film de partage avec beaucoup de problèmes de dialogue et de communication.
Ouais, c'est un documentaire assez dur et sans concession.
C'est pas vraiment un documentaire.
Un peu quand même, hein, si, un peu.
Un peu
Bon. C'est entre les deux. Hein,
Ouais, c'est un peu spécial.
Voilà.
Et du coup, c'est un peu la semaine, la semaine Ardos du Pestel du 19 au 25 mars 2014.
Est-ce que nous avons décidé de notre sujet de la semaine prochaine ?
Non.
Absolument pas, on va le faire après. Alors, en tout cas, on vous remercie d'avoir écouté Arrête ton cinéma. On espère que vous y avez pris du plaisir, que vous avez envie de voir des films maintenant.
Ah oui.
Merci Anna.
Voilà.
Merci.
Merci Gwen.
Merci Becky.
Et puis à la semaine prochaine.
Et merci à notre invité
spécial. Et merci, oui, Clarisse. Au revoir, Clarisse.
Guest star.
Merci. Et au revoir.
Et au revoir.
Fin de la retransmission.
Ok, Ruby, demain à 17h.
Comment c'était ?
Oh, c'était un pur, absolument délire.
J'ai trouvé ça. Quoi,
Green, oui.
Green, comment ?
Oh, super green.
Aussi green que ça peut être.
Green à la puissance,
c'est pas possible.
Green, tu vois ?
Mais tu vois,
green absolument.
Green, un green plus green.
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
You talking to me?
Say hello to my new friend!
I wanted to learn.
life was like a box of chocolates.